Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes vendredi, c'est la Libre Antenne, vous connaissez le principe. Nous terminons la semaine avec vos réactions sur l'actualité de votre choix, où que vous soyez, en France, à l'étranger. Un sujet vous a marqué cette semaine dans l'actualité française, africaine, internationale. Vous avez envie de vous exprimer, et bien surtout n'hésitez pas, vous nous contactez 33 9 693 693 70 09 693 693 70 si vous êtes en France. Vous nous rejoignez évidemment sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité et la Libre Antenne, c'est l'occasion de nous interpeller sur les grands sujets, mais aussi sur ceux qui ne font pas la une de la presse internationale. C'est l'occasion de nous parler de l'actualité dans votre pays. Donc rejoignez-nous et on sera un plaisir évidemment tout à l'heure de commenter ensemble l'actualité. Il y a beaucoup d'appels encore ce matin après la victoire historique cette semaine de l'opposition au Nigeria, la mobilisation de l'opposition en Guinée après la journée ville morte hier dans la capitale. Quelques commentaires après l'attaque menée hier par les Chebabs au Kenya. D'ailleurs, ce sera notre débat de lundi matin. La grogne sociale au Gabon suscite également des réactions. Des coups de gueule après la décision du tribunal arbitral du sport de lever les sanctions contre le Maroc. Le Maroc sanctionné après avoir refusé d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations cette année. Eh bien, nous en parlons là aussi. Donc, vous le voyez, l'actualité est riche, les sujets ne manquent pas. 33 9 693 693 70. D'abord, comme tous les matins évidemment, votre rendez-vous avec la rédaction, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Mohamed est avec nous, bonjour.
Bonjour Monsieur Wan.
Vous nous appelez de Bamako au Mali et vous avez des questions concernant le premier mariage interreligieux en Afrique du Sud.
Bien sûr, Juan Gomez. J'ai appris sur RFI qu'un imam sud-africain a ouvert une première mosquée dite libre et que ce dernier a même célébré un premier mariage interreligieux, un chrétien et une musulmane. Donc, j'ai deux questions par rapport à ce sujet.
Ouais.
La première est de savoir comment l'imam justifie-t-il ces mariages.
Oui, la seconde, un mariage qui est interdit par l'islam. Hein. Un homme chrétien ne peut pas épouser une femme musulmane. Hein.
Bien sûr, et puis ce n'est pas la première fois parce que je l'ai vu au Mali. La seconde question est de savoir pourquoi une mosquée libre.
Ah, mosquée libre, effectivement, et on peut le dire, cette mosquée, comme ce mariage, n'est pas forcément très bien perçu par les imams sud-africains, c'est même perçu comme une provocation par certains d'entre eux. Bonjour Alexandra Branjon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante d'RFI en Afrique du Sud. Alors c'est vrai que c'est une mosquée pas comme les autres. C'est une mosquée ouverte à toutes et à tous.
Voilà, il s'appelle Open Mosque, la mosquée ouverte, vous venez de le dire, et comme son nom l'indique, elle est ouverte à tous. Celui qui l'a fondée s'appelle Tadjar Gay, c'est un intellectuel, un théologicien musulman, et pour lui il s'agissait d'ouvrir une mosquée ouverte à tous sans discrimination. Donc par exemple, hommes et femmes ne sont pas séparés et peuvent prier dans la même salle. Il s'agit également d'une mosquée ouverte aux homosexuels, là aussi dans un souci d'égalité. Gay explique qu'il y a 20 ans, l'Afrique du Sud a entrepris une transition pacifique vers une démocratie et que selon lui, il est temps que ce changement, qu'un changement similaire s'opère en religion.
Oui, il voit sa mosquée un peu comme une révolution religieuse. Après la révolution politique en Afrique du Sud, là, ce qu'il souhaiterait, c'est une révolution religieuse.
Oui, oui. Il explique qu'avec cette mosquée, il souhaite contrecarrer les tendances croissantes d'un islam qui se radicalise, y compris ici en Afrique du Sud.
Alors, comment cet imam justifie-t-il effectivement ce mariage interreligieux, puisque selon le Coran, un homme chrétien ne peut pas épouser une femme musulmane?
Alors, on va parler un petit peu de théologie, puisque pour répondre à cette question, il faut se demander justement si le Coran autorise un mariage entre musulmans et non-musulmans. Alors, les différents théologiens et le Tadjar Gay avec qui j'ai parlé se réfèrent au Coran qui dit « Vous ne vous mariez pas avec les femmes polythéistes tant qu'elles ne sont pas croyantes. » Donc, cela veut dire pas de mariage entre un musulman et une femme athée, agnostique ou polythéiste. Ça n'est pas permis. En revanche, un verset du Coran dit dit, seul le mariage avec une femme issue des gens du livre est permis. Les gens du livre, cela veut dire une femme croyante, qu'elle soit juive ou chrétienne. Et là, il s'agit de la sourate 5, verset 5 du Coran. Donc, l'imam de la mosquée du Cap estime que puisque le Coran permet le mariage d'un homme musulman avec une femme chrétienne ou juive, dans le cadre de l'égalité des sexes, l'inverse doit être accepté. C'est-à-dire qu'une femme musulmane doit pouvoir se marier avec un homme chrétien ou juif. Voilà comment il justifie ce mariage. Et il ajoute qu'il met quiconque au défi de prouver que le mariage dans ce sens est interdit par le Coran.
Voilà, donc une mosquée.
Juste une dernière chose.
Oui, allez-y, Alexandra.
Oui, une dernière chose, c'est une première en Afrique du Sud, c'est-à-dire ce mariage dans son célébré par un imam. Mais en France, il y a des unions célébrées par des imams d'un homme catholique et d'une femme musulmane. Cela existe déjà.
Merci beaucoup Alexandra Branjon d'avoir été en direct et d'avoir répondu à Mohamed, à qui nous souhaitons une bonne journée à Bamako où il est 8h16. Vos questions à la rédaction. Groggy Louis nous appelle d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous avez des questions sur l'Ukraine?
Oui, tout à fait. Alors, en Ukraine, le gouverneur de Dnipropetrovsk, Alex Igor Koloumoïski, vient de faire sa démission au président Petro Poroshenko. Alors, je voudrais savoir les raisons profondes de cette démission. Et M. Koloumoïski a créé et finance des groupes pro-ukrainiens qui combattent à l'Est. Quel sera l'impact de cette démission sur les forces pro-ukrainiennes de la région?
Ouais. Alors, c'est une information qui peut paraître pas forcément très importante, mais c'est vrai que cet homme est un oligarque, il est milliardaire, il est patriote, et effectivement, il a contribué à lutter contre les séparatistes pro-russes, il a financé des bataillons d'autodéfense. On va essayer de connaître un peu mieux cet homme qui s'appelle Igor Kolomoïski, avec Annie Daubenton. Bonjour Annie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, spécialiste de l'Europe centrale et orientale. On vous doit plusieurs ouvrages, dont Ukraine, les métamorphoses de l'indépendance. C'est publié aux éditions Bûcher-Chastel. D'abord, qui est cet homme?
Igor Kolomoïski est un personnage très attachant dans la vie, je dirais, politico-financière de l'Ukraine. Il est affublé du titre de oligarque, ce qui n'est jamais très bien vu de la société ukrainienne, sauf qu'il a eu une importance, comme vous l'avez signalé, et comme l'a signalé votre auditeur, très grandissante depuis le conflit avec la Russie, dans la mesure où il a fait de Dniepropetrovsk une forteresse inatteignable par les séparatistes. C'est un homme qui a donc, je dirais, deux bonnets. Il est à la fois gouverneur de Dniepropetrovsk, rôle qu'il a pris sous la pression des événements depuis un an, en même temps une des principales fortunes de l'Ukraine.
Ah oui, troisième fortune de l'Ukraine. Il a, il possède la première banque du pays, un club de foot, une compagnie aérienne et beaucoup d'entreprises dans le secteur pétrolier. Il faut dire que la région... Et quelques médias en plus. Et il faut dire que la région dont il était le gouverneur est une région frontalière du territoire rebelle de Donetsk. Tout allait bien jusqu'à il y a quelques jours. Que s'est-il passé? A-t-il été limogé ou a-t-il vraiment démissionné?
Écoutez, il faut revenir un petit peu à la généalogie des événements. Le Parlement ukrainien fait son travail indépendamment du conflit qu'il oppose sur son flanc est et sur la Crimée. Il fait son travail de réforme de l'État. Et dans ce travail, il y a celui de réinvestissement de l'État au sein des entreprises. Donc, dans le but de donner des limites aux grandes fortunes qui ont quand même beaucoup puisé et contribué à un certain affaiblissement de ce pays. Donc une loi est passée et donc c'est une des sociétés pétrolières dont Kolomoïski sur lequel Kolomoïski a quand même un contrôle très important qui a été menacée. Donc il a investi les bureaux de Ukrnafta en pleine nuit à Kiev avec des hommes de main, disons. Voilà, ce sont des méthodes qui sont celles tout à fait issues du début des années 90. On a vu ça beaucoup en Russie, en Ukraine, et voilà. Simplement, dans ce nouveau contexte, ça devenait intolérable dans la mesure où l'État central doit réaffirmer sa dominante aussi bien dans le champ politique qu'économique. Donc, la démission, entre guillemets, de Kolomoïski a été une sorte d'accord tacite entre les deux hommes qui se connaissent très bien et qui s'estiment et qui considèrent, Porochenko considérant Kolomoïski est un grand patriote, et donc il lui a demandé gentiment de choisir entre le rôle de businessman et celui de responsable de la ville de Dniepropetrovsk.
Oui. Alors, Kolomoïski, vous le disiez, c'est un patriote, il est très populaire, beaucoup lui attribuent effectivement le mérite d'avoir empêché la propagation du séparatisme dans cette région, en finançant, on dit des bataillons d'autodéfense, mais on peut dire des miliciens. Le fait qu'il soit plus gouverneur, le fait qu'il soit quand même un peu fâché avec les autorités, est-ce que ça peut avoir un impact sur les forces pro-ukrainiennes, sur le bras de fer face à Moscou?
Oui, c'est très important. C'est très important et ça a mis la région en émoi. D'ailleurs, il y a eu une très importante manifestation qui s'est tenue à Dniepropetrovsk, un peu en son honneur, mais aussi pour mobiliser la population et faire comprendre que le danger était proche, mais qu'il serait quand même protégé, que l'on serait protégé. Donc, en ce qui concerne ce rôle des bataillons de volontaires, ce ne sont pas des milices. Tout à fait autre chose. Quand même, les bataillons de volontaires sont intégrés, pour la plupart d'entre eux, au sein de la Garde nationale, qui sont ces nouvelles formations qui ont été mises sur pied par l'État ukrainien après, disons, les insuffisances, pour employer un euphémisme, du monde militaire post-soviétique dont l'Ukraine a hérité au moment du déclenchement du conflit. Voilà.
Merci. Oui.
C'est une situation qui est quand même très propre au conflit, vous comprenez, on est dans une situation quand même de l'entre-deux, où l'on ne peut pas véritablement se plaquer sur des critères strictement démocratiques, et où en même temps il faut que des règles du jeu entrent en vigueur.
Merci Annie de Banton de nous avoir éclairé sur l'incroyable histoire d'Igor Kolomoïski et de son rôle effectivement depuis quelques mois dans l'est de l'Ukraine. Grogui Louis, bonne journée à Abidjan. N'oubliez pas dans 20 minutes la Libre Antenne. Ce sont vos réactions sur l'actualité de votre choix. 33 9 693 693 70. Jacques Junior nous appelle de Douala au Cameroun. Bonjour Jacques Junior.
Bonjour, John Gomez.
Vous avez des questions sur le Tchad?
Oui, certainement, John Gomez.
Allez-y, on vous écoute.
Bon, j'ai appris la condamnation de complices de l'ex-président tchadien Senapa exilé au Sénégal. Alors, ma question est de savoir pourquoi ces complices ont été-ils jugés avant Senapa? C'est ma première question. Et la deuxième question, y a-t-il d'autres complices à juger que ceux-là qui ont été jugés actuellement?
Alors, bonne question. C'est vrai, on rappelle quand même qu'Hissène Habré, l'ancien président tchadien, est accusé de crimes contre l'humanité lorsqu'il dirigeait son pays. Lui, il sera jugé à Dakar, où il s'est exilé. Il sera jugé par un tribunal spécial créé par l'Union africaine et par le Sénégal. En revanche, effectivement, Jacques Junior, vous avez raison, ses complices, eux, ont été jugés au Tchad par la Cour spéciale de N'Djamena. Avec nous, le correspondant des RFI au Tchad, Madjaz Ranako, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être en direct de N'Djamena. Sur le banc des accusés, il y avait 28 complices, dont 7 responsables de la DDS, la police politique d'Hissène Habré. Ils ont d'ailleurs été condamnés à la prison à perpétuité. Pourquoi le Tchad a-t-il jugé les complices d'Hissène Habré?
En fait, il faut dire que ce procès est une sorte de réponse politique que le Tchad a voulu apporter, on dirait, à la communauté internationale et surtout aux associations de défense des droits de l'homme qui accusent le pays de mauvaise volonté depuis plusieurs années, parce que il faut se rappeler que c'est quand même depuis 2000 qu'il y a eu une plainte ici au tribunal de N'Djamena contre des anciens responsables de cette police politique de Hissène Habré. Hissène Habré lui-même étant réfugié à Dakar depuis sa chute en 1990. Il est vrai qu'il y avait une plainte contre lui ainsi que tous ses complices à la fin du rapport à la production du rapport qui a été produit par la commission, commis par les nouvelles autorités pour évaluer tous les crimes politiques et économiques qui avaient été commis de 82 à 90. Mais puisque Hissène Habré était hors de portée de la justice tchadienne et que l'instruction ici n'avançait pas assez rapidement au regard des victimes qui, disait-il, croisent tous les jours leur bourreau, soit dans les administrations, soit dans la rue, parce que tous ne se sont pas enfuis. À leur sens, les choses n'avançaient pas assez vite. Et ce procès qui s'est un peu accéléré aussi, il faut le reconnaître, en raison de l'arrestation de Hissène Habré et de l'accélération de la procédure au Sénégal, ce procès vient comme une sorte de réponse politique
oui.
que le Tchad a voulu apporter pour, disons, montrer une certaine bonne foi.
En quelques mots, est-ce qu'il y a d'autres complices en attente de jugement ?
Oui, en fait, dans l'arrêt dont vous avez fait allusion du 25 mars dernier, donc il y a, en plus d'avoir condamné les 28 qui ont été traduits, bon, du moins une partie des 28 qui ont été traduits devant la Cour criminelle spéciale, les juges ont demandé à ce qu'un certain nombre de responsables de la police politique de Hissène Habré n'ont pas été concernés par cette procédure, soit recherchés et jugés par les tribunaux tchadiens, on citera entre autres Nico Reuil, Bandine Bandoum ou encore Abakar Turbo, qui restent introuvables.
Qui sont des anciens responsables de la DDS, la fameuse police politique, et qui se sont enfuis effectivement à l'étranger. Donc on peut s'attendre à d'autres procès dans les prochains mois. Merci à vous d'avoir été en direct donc de Djamena. Jacques Junior, bonne journée à Douala. Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour.
On va terminer avec vous, chef du service des sports d'RFI. On a une question d'un supporter du Paris Saint-Germain. Mohamed, bonjour. Allô Mohamed ? Ah, on a perdu Mohamed. Mohamed Alomé. Ah bah alors, c'est pas de chance pour lui, parce que lui, vraiment, il tenait absolument à poser la question. Il dit, c'est mon équipe favorite, le PSG. Ce mois-ci, le calendrier du club est très chargé. En l'espace de 20 jours, le PSG va disputer 6 matchs. Pourquoi la Fédération Française de Football a-t-elle refusé de repousser le match contre Saint-Etienne, malgré la demande du PSG ? C'est vrai que jamais un calendrier, jamais une demi-finale de la Coupe de France n'a autant fait débat et polémique.
C'est vrai. Alors, dans un premier temps, effectivement, la fédération a dit il n'y a pas des dates disponibles avant le 19 mai, c'est trop tard, la finale est le 30 mai, on ne peut pas organiser la finale. Donc le PSG est revenu à la charge en proposant en fait d'inverser le match contre Saint-Etienne contre un match de championnat face à Metz. Donc du coup, il s'agit simplement d'inverser ces deux matchs. La Saint-Etienne, qui était ouvert au changement, a dit nous, ça ne nous arrange pas trop, finalement, on ne comprend pas, de toute façon, ils vont jouer un match, mais ce n'est pas pareil, un match de championnat, il n'y a pas de prolongation, il n'y a pas des tirs au but éventuellement, c'est pas la même intensité. Donc pour le PSG, c'était quand même une forme de, c'est une façon de soulager un peu son calendrier avant la finale de la Coupe de la Ligue le samedi suivant et la réception de Barcelone.
Eh oui.
Du coup, Saint-Etienne n'a pas été très coopératif, mais on a reproché également au président de la Fédération française, Noël Legraët, d'avoir en quelque sorte cherché à favoriser son ancien club Guingamp, qui est aussi demi-finaliste de la Coupe de France. Ils vont jouer mardi contre Auxerre. Donc du coup, si Guingamp accède à la finale, il est soupçonné d'avoir voulu écarter le PSG, qui est un rival plus difficile, en préférant que Saint-Etienne éventuellement accède à la finale. Alors c'est la fameuse théorie du complot qui fait sa réapparition, et difficile à dire si c'est vraiment justifié. En tout cas, la Fédération française, en se montrant un peu trop fermée à toute solution, a fait en sorte de nourrir un peu ce soupçon de complot qui apparaît régulièrement dans le football, et notamment quand il s'agit de Paris Saint-Germain, qui est soupçonné parfois d'être un petit peu victime d'un certain acharnement de la part des instances.
Le patron du PSG qui s'est dit profondément déçu et surpris par la décision de la Fédération française, puisqu'on parle du PSG, Alejandro, annonce à nos auditeurs qu'ils vont vivre une belle soirée de football dimanche soir sur notre antenne.
Oui, parce qu'avant Saint-Etienne, il y a l'OM, donc le classico du championnat de France et des Ligue 1, ce dimanche à partir de 21h, heure française,
19h, temps universel. Voilà, OM PSG à vivre en direct sur les antennes d'RFI. Merci Alejandro Valente.